Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi comme chaque jour, du lundi au vendredi de midi à 15h. Et on est très très heureux d'être avec vous et d'être également aujourd'hui avec Rémi Barré. Salut Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
On est également avec l'homme du vendredi, journaliste à Marianne, Perico Légas. Bonjour Perico.
Bonjour Estelle, le taxi qui me conduisait m'a cité une phrase de Tolstoï. Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est qu'un autre manque du nécessaire. Ça m'a...
Oui, mais quel rapport avec l'émission ?
Ah ben, on part souvent de ces inégalités. Vous voyez, résumé en une phrase.
Voilà, là, vous m'avez plombé mon...
Mais pas du tout, au contraire, je vous ai enrichi votre production.
J'étais sur un élan et là, pouf. Bon, nous sommes avec la militante associative Loumir Laprès. Salut Loumir.
Salut Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Et puis le désormais propriétaire de Gîte, c'est Jérôme Lavrieux. Ça va Jérôme ?
Impeccable, super. Et
toujours également dans la politique, évidemment. Au sommaire d'Estelle Midi aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé qui préconise la réintégration des soignants non vaccinés après 18 mois de mise à l'écart. Mais faut-il les indemniser, ces soignants ? On attend vos commentaires au 32-16. À midi et demi, les multimillionnaires qui quittent Paris depuis 2 ans, des commerces et des écoles qui ferment, la capitale fait-elle encore rêver ? À 13h, la productivité qui baisse en France depuis le Covid, à l'inverse de l'Allemagne ou de l'Italie, sommes-nous devenus feignants ? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Et puis à 14h, des taxes qui explosent, des refus de prêts, 70% de refus, la grogne des habitants. Est-ce la fin des résidences secondaires ? Bah dites-nous, tiens, si vous avez renoncé à votre projet de pied-à-terre ou si vous voulez vendre, par exemple, votre résidence secondaire parce qu'il y a trop de contraintes. On vous attend au 32 16 et sur l'application RMC. Et puis on vous fait gagner des places pour la Coupe du Monde de rugby, Rémi.
Exactement, avec Total Energy, le sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Nous vous offrons des places pour cette Coupe du Monde pour les plus belles affiches. Le principe, il est simple. Dès que vous entendez ça, vous aurez alors 5 minutes pour envoyer Coupe par SMS au 732-16. Coupe par SMS au 732-16 pour vous inscrire donc. Et le nom du gagnant sera dévoilé au cours du Super Moscato Show sur RMC.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC et on va démarrer tout de suite avec la préconisation du jour. C'est celle de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui recommande de réintégrer les soignants non vaccinés contre le Covid. Un soulagement pour ces personnels de santé sans emploi depuis 1 an et demi. Mais combien sont-ils exactement, Rémi ?
Bien, on ne le sait toujours pas exactement, mais ce que il en reste aujourd'hui de ces soignants non vaccinés, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très peu. La plupart ayant finalement accepté de se faire vacciner. Si le chiffre de 15 000 personnel suspendu a longtemps été avancé. Il s'agissait d'une estimation et elle remonte à octobre 2021. Les derniers chiffres officiels, eux, datent du mois de juillet 2022. Il parlait à l'époque de 600 infirmières suspendues sur 240 000 que compte le pays dans l'hospitalier public et de 75 médecins et pharmaciens sur 85 000 en exercice. Reste que ces personnels, depuis septembre 2021, ont vu leur contrat suspendu, ce qui veut dire que leurs droits sont inexistants. Les salariés qui ont refusé le pass sanitaire ne pouvaient ni toucher les allocations chômage, ni le chômage partiel. Ils se sont donc retrouvés à cette époque sans salaire et sans aide financière. Depuis, la donne, tu l'as évoqué, elle a changé. La Haute Autorité de Santé a rendu en février dernier un avis conseillant de lever l'obligation vaccinale pour ses soignants. Des syndicats, la France Insoumise, mais aussi le RN, le réclament depuis plusieurs mois, le Rassemblement National, qui va même plus loin et propose de les indemniser, pour les salaires perdus.
Alors, faut-il indemniser ces soignants non vaccinés et qui vont être réintégrés certainement, Perico Légas ?
Les deux options sont compréhensibles. Il y en a qui vont vous dire, c'est déjà bien qu'on les réintègre, on va pas en plus indemniser. Et d'autres qui vont dire, puisqu'on leur rend leurs droits, c'est normal qu'on compense ce qu'ils n'ont pas touché. J'ai plutôt tendance à aller dans ce sens. Alors, il faut voir...
Leur verser 1 an et demi de salaire.
Alors, non, pas tout. Mais on peut quand même leur donner on peut compenser le fait, ils ont été sanctionnés, ils ont été punis, ils l'ont payé. On peut faire un geste de façon à ce qu'ils reviennent.
Ils auraient pu aussi faire un geste,
c'est-à-dire
se vacciner.
Mais à ce moment-là, attendez, si vous êtes sur cette position, on les réintègre pas. Si on les punit, on les punit jusqu'au bout, voilà.
Mais c'est ça, mais...
Si on les réintègre, c'est qu'on considère qu'ils peuvent revenir. Ce sont des gens compétents, ça ne tire rien à leurs compétences.
Bien sûr.
Ça serait bien qu'ils reviennent avec, j'allais dire, une petite stimulation, une petite motivation. Voilà, on leur dit, on vous donne une partie de ce qu'on vous a pas donné. Voilà. Est-ce que c'était juste de les de les exclure.
Vous imaginez pour les soignants qui, eux, ont bossé et sont fait vacciner, parfois à contre-cœur. Hein. Vous avez plein de soignants qui n'avaient pas envie de se faire vacciner, qui l'ont fait quand même.
Oui. Moi, je suis pro-vaccin, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, je reconnais que certains personnels aient pu penser que ce n'était peut-être pas forcément obligatoire. Oui. C'est terrible parce qu'on n'a pas réussi à clore le débat. C'est clair qu'il fallait vacciner. Oui. Pour autant, la totale efficacité de cette mesure pour le personnel soignant, bon. Non, mais je ne rentre pas dans la polémique. Je dis que je me mets à leur place.
Mais je vous sens très gêné aux entournures, ce qui est rarement le cas dans cette émission. Périgo, je ne comprends pas pourquoi, en fait.
Parce que je ne suis pas sûr de moi à 100% sur cette histoire.
D'accord, je vais aller voir quelqu'un d'autre.
Voilà.
Je vais me tourner vers...
J'ai le courage de le dire, moi, que je ne suis pas sûr de moi à 100%.
D'accord, mais c'est très bien.
Il y a beaucoup de gens qui se dérobent.
C'est très bien. Mais Jérôme Lavrieux, lui, est toujours sûr de lui à 100%. Jérôme, si on réintègre ces soignants...
C'est pour ça qu'il est minoritaire.
Qui sont peu nombreux, hein. Rémi l'a rappelé, c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de dire il y a 15 000 soignants, la crise à l'hôpital, c'est parce qu'ils ne sont plus là, etc. Est-ce qu'on les indemnise ou pas?
Ah ben non.
D'accord.
Bah, ils n'ont pas travaillé.
Voilà. Ouais. C'est pas eux qu'on demandait à pas travailler.
Mais si. Parce que quand tu veux être embauché dans un hôpital, dans un EHPAD, dans un service de soins, il y a une liste de vaccins qui sont obligatoires. D'ailleurs, les mêmes qui n'ont pas voulu se faire vacciner sur le Covid étaient vaccinés sur plein d'autres sujets. C'est une condition nécessaire et obligatoire. Sans ça, tu ne peux pas être embauché. D'accord ? Tu peux faire plein d'autres métiers dans ta vie, mais tu ne peux pas travailler là. Et les réintégrer, moi, je ne l'aurais pas fait.
Ah bon, d'accord.
D'accord. Non, mais ils ont fait un choix.
Non, mais c'est clair.
Dans la vie, tu fais un choix.
Mais c'est cohérent.
Parce que pour une raison simple, ce sont censés être des scientifiques. D'accord ? Soigner, ce n'est pas une croyance. Tu ne crois pas au vaccin, ou tu crois au vaccin, ou tu n'y crois pas. Ça n'a pas de sens. Si on te dit que scientifiquement, c'est quelque chose qui est bénéfique pour te préserver, toi, et, virgule, ça n'est pas anecdotique, préserver les gens que tu es censé soigner et pas rendre malades.
On sait que ça n'a pas d'effet sur la contamination, donc c'est ça. En fait, au départ, on nous a dit, quand vous êtes vacciné, vous ne contaminez pas, mais on s'est rendu compte que c'était pas vrai.
Bah, sauf que tout le monde a été vacciné.
Oui.
Donc, comment tu fais pour savoir que ça n'a pas d'effet sur les vaccins?
Parce que 97%
ont été vaccinés.
Oui, mais t'as beaucoup de gens dont je fais partie, qui ont été vaccinés, qui ont tout fait bien et qui ont quand même eu le Covid.
Oui, puis il y a des gens qui ont fait tous les vaccins. Moi, j'ai fait tous les vaccins. Mes parents, qui sont un peu plus âgés que moi, heureusement, parce que c'est mes parents, ils ont fait tous leurs vaccins. Ils ont porté le masque à chaque fois qu'il fallait le faire, etc. Et ils n'ont pas eu le Covid et j'ai pas eu le Covid. Voilà. Et si je dois aller être hospitalisé en tant que patient, pas scientifique, en tant que patient, je vais voir des gens responsables et scientifiques qui ont des diplômes, je dois être sûr que leurs pensées, leurs croyances ne vont pas me mettre en danger. Je vais pas à l'église. Je vais dans un hôpital.
C'est pas qu'une croyance. C'était un doute qu'il y avait, légitime, qu'il fallait dissiper.
Légitime,
Qui
dit que c'était un doute légitime?
L'ensemble du corps médical.
Le simple fait qu'on n'avait pas assez de temps. Moi, je suis sûr que c'était efficace.
Des gens
scientifiques disent qu'on n'a pas assez de temps pour savoir s'il n'y a pas un effet secondaire. Je comprends qu'on soit posé la question.
D'accord. Et on attend de pouvoir contaminer les gens sans aucun problème.
Non, je soutiens pas.
Mais tu veux les contaminer en ayant été vacciné aussi, c'est ça?
D'accord. Et à la prochaine pandémie, on dira, chacun fait comme il veut.
Donc on prend un risque à les réintégrer. Voilà. On prend un risque à les réintégrer.
Oui, je pense.
Alors, Lumière, après, est-ce que tout ça, c'est un énorme gâchis?
Je pense que c'est un gâchis d'échanges, de discussions, pour moi, parce que je connais pas mal de gens qui ont été dans cette situation, notamment pendant la campagne. On en a rencontré des gens, des aides-soignantes, des ambulanciers, des gens qui soit se sont fait vacciner à contre-cœur, soit n'avaient pas envie de se faire vacciner. Très souvent, tout ça, c'était lié quand même à une vraie défiance vis-à-vis du politique, qui n'était pas juste « je m'en fous des autres et des patients avec lesquels je bosse », au contraire, mais qui était plus ce manque de confiance dans le politique qui fait les choses pour l'intérêt général. Et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est de dire... ce serait bien que tous les gens qui travaillent dans la santé soient des scientifiques. Or, ça n'est pas le cas. Enfin, aujourd'hui, quand on est aide-soignante, quand tu es secrétaire médicale, tu n'es pas scientifique. Et en fait, d'un côté, vu ce que tu es payé, c'est déjà bien qu'on arrive à trouver des gens pour faire ce métier dans les conditions dans lesquelles ils le font. Mais moi, ce que je vois, c'est que souvent, c'est quand même les gens qui se sont fait vacciner, c'est les médecins libéraux, c'est les gens qui sont plus éduqués, qui sont plus insérés dans le corps social. Et donc, il y a quand même une forte corrélation entre un manque de confiance global, dans le politique, dans l'élite et dans sa capacité à nous proposer des choses qui sont bonnes pour nous. Et ça, pour moi, c'est surtout ça qui devrait nous interroger. Alors après, cette proposition de les indemniser, pour moi, il faut se poser la question. Est-ce que on les réintègre parce que maintenant, il n'y a plus de risque, mais on est on se dit qu'il y avait un risque avéré à l'époque, et dans ce cas-là, bah, on les réintègre peut-être maintenant, mais on les indemnise pas, parce qu'en fait, on a bien fait de les mettre de côté à l'écart.
Parce que la situation fait qu'on peut
voilà.
les réintégrer.
Ou alors, on se dit, on a fait erreur sur toute la ligne, on aurait jamais dû les mettre à l'écart, et dans ce cas-là, pour moi, on les indemnise parce que c'est des victimes d'une décision politique. Mais je crois pas que ce soit ça qui ait finalement été décidé.
Alors, on est avec Jérôme Marty, c'est notre invité sur ce débat. Il est chaud sur le sujet, hein, Jérôme Marty, qui est médecin généraliste à Fronton, en Haute-Garonne, président de l'Union française pour une médecine libre et bien sûr membre des GG. Salut Jérôme.
Salut Estelle.
Ça va Jérôme ?
Ça va.
Je sais que c'est un sujet qui te passionne.
Ben, ça me passionne. Disons que on est un petit peu écœuré quoi ce matin, tous les médecins qui ont porté ces campagnes vaccinales et qui se sont exposés pendant toute la durée du Covid, on est un petit peu écœuré parce que le message que donne la HAS, je reviendrai après sur les soignants suspendus, mais là j'ai resté sur la vaccination. Le message que donne la HAS n'est pas un bon message et va être perçu par la population comme c'est pas la peine de se vacciner quoi. Et donc on va ramer sur les futures campagnes vaccinales, on va repartir quasi de zéro pour refaire une éducation à la santé aux gens pour leur montrer l'intérêt de la vaccination. Et en plus, ils nous sortent ce message-là alors qu'ils sont en train d'essayer démocratiser en quelque sorte la vaccination contre le papillomavirus. Donc c'est très curieux comme message. Ça fout à bas toutes les campagnes vaccinales et on a envie de leur dire, écoutez, les prochaines campagnes vaccinales, messieurs, vous ferez ça nous, vous les montrez avec les antivax, quoi. Ouais.
Et Jérôme, juste là, bon, a priori, ils vont être réintégrés, mais est-ce que on les indemnise parce qu'ils ont passé 18 mois sans pouvoir négocier, par exemple, je pense à ceux qui bossent à l'hôpital, sans pouvoir négocier avec l'hôpital pour avoir un petit, pour être viré, on va et passer à autre chose.
Non mais ça Estelle, si tu permets, d'abord dans le bulletin ou la prise de position de la HAS, il n'y a pas une ligne sur les soignants suspendus. Ça, c'est après une décision politique. Qui va décider, on les reprend, on les reprend pas. Si on les reprend, est-ce que on les indemnise, on les indemnise pas, etc., etc. D'abord, il faut en revenir sur le nombre. Le nombre, il est epsilonesque au regard du nombre de soignants qui bossent.
Bien sûr, Epsilonesque. 75.
Si tu prends les médecins, par exemple, libéraux, sur les 120 000 médecins libéraux, il n'y a même pas 30 médecins non vaccinés. Ouais.
Bien sûr.
Donc c'est un truc qui est vraiment epsilonesque. Après, c'est un problème politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la médecine. Moi, si j'ai des soignants qui se sont laissés gagner par des idées qui sont des idées anti-scientifiques, qui ont tourné le dos à la science, ça me gêne qu'ils aillent soigner des gens. Je vais être tout à fait clair. Moi, je peux avoir n'importe quand mes parents qui sont assez âgés, qui soient hospitalisés. Je n'ai pas envie qu'ils soient dans les mains de gens qui pensent que ce vaccin va faire qu'on va être dirigé par la 5G, quoi.
Oui, non, mais oui, c'est un peu une caricature, je comprends.
Dans les soignants qui restent, un certain nombre d'entre eux, au bout de 2 ans et demi, je rappelle quand même que ça fait un paquet de temps qu'on a des vaccins qui sont à technologie non ARN et que donc ils pouvaient se vacciner.
Oui, c'est vrai, le Novavax.
Ils ne l'ont pas fait. Donc, les gens qui ne l'ont pas fait, on peut considérer qu'ils sont anti-vax. Et s'ils sont anti-vax, ils sont aussi prosélytes. Or, quand tu es dans une équipe, elle a besoin d'être équilibrée. Elle a besoin de tirer dans le même sens. Si tu as des membres de l'équipe qui tirent dans d'autres sens et qui vont faire du prosélytisme anti-vax ou que sais-je, ou sur d'autres points, c'est pas possible au sein d'un service hospitalier. D'accord. Donc, toutes ces choses-là sont à regarder. C'est pour ça que je disais, il y a déjà quelques mois, je suis d'accord, moi, pour qu'on reprenne les soignants suspendus, mais il faut que l'on les écoute et qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne se sont pas vaccinés.
Oui, ça je comprends. Merci beaucoup,
en
tout cas.
Et à partir de là, on les prend pas. Voilà.
Eh ben merci Jérôme, c'était très clair. En tout cas, merci de nous avoir donné ton avis sur le sujet. Ben, on a Valérie qui nous appelle aussi de Haute-Garonne, de Cambéac, et qui est infirmière en disponibilité parce que, justement, Valérie, elle fait partie de ces soignants non vaccinés. Bonjour Valérie.
Et bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RMC. Est-ce que vous accueillez cette décision de la Haute Autorité de Santé avec soulagement, le fait de pouvoir être réintégré, ou vous êtes passé à autre chose ?
Bah, je suis passée à autre chose, mais c'est vrai que nous, avec mon compagnon, on a repris un commerce, donc pour l'instant, on n'a pas de salaire sur le commerce. Donc, le fait de pouvoir être réintégré va pouvoir me permettre de faire au moins de temps en temps des vacations pour pouvoir vivre, tout simplement. Après, franchement, retourner, après ce que j'entends de certains médecins ou de certaines personnes, retourner travailler comme infirmière aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On a fait partie des premières lignes sans matériel, sans rien du tout, et après, on nous a acheté comme rien du tout. Parce qu'on ne voulait pas faire un vaccin, quoi. Je trouve ça un peu dommage d'oublier ce que les gens ont fait avant que le vaccin existe. Alors, bah, c'était normal, à la limite, si on s'est laissé gagner par la maladie et qu'on a donné du 100%, bon, allez, après, vous partez à la poubelle, quoi. Vous valez rien. Donc, ce n'est plus un métier qui devient intéressant, parce que c'est un métier où on donne beaucoup de soi. Et entendre ce que j'entends aujourd'hui, qu'on ne fait pas partie d'une équipe parce qu'on a tiré dans l'autre sens ou quoi que ce soit. Et en tant que non-scientifique, parce que je ne suis pas scientifique, mais infirmière, la première chose qu'on nous apprend, c'est à toujours regarder ce que l'on donne, à toujours remettre en cause ce que l'on donne, même si c'est prescrit par un médecin.
Mais Valérie, ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que vous vous rappelez, vous avez été en première ligne, effectivement, avant le vaccin. Vous avez été là pendant toute la période Covid.
Ils l'ont payé, hein.
Et bien sûr, ils ont payé un lourd tribut. Et effectivement, c'est bien de le rappeler. Valérie, est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui être indemnisée, justement, parce qu'il y a eu préjudice. Vous le dites, vous avez dû devenir commerçante et en plus vous n'avez pas de salaire parce que pour l'instant, bah, votre commerce il est tout neuf.
Oui, tout à fait. Bah, alors, moi, indemnisée, non, parce que, on va dire par chance ou par malchance, je me suis blessée à l'épaule juste avant la suspension. Donc, du coup, je n'ai pas été suspendue. J'étais en accident de travail.
D'accord.
Donc, moi, je ne fais pas partie des suspendus, mais j'estime que, ouais, pour mes collègues suspendus, peut-être pas leur reverser tous les salaires parce que ça va coûter, c'est excessif. Mais oui, une indemnisation, au moins pour leur dire, désolé, on s'est peut-être trompé. Après, je ne sais pas, hein, mais.
Personne ne dit. Non, mais personne ne dit on s'est trompé. Personne ne dit on s'est trompé. La décision de la HAS, qui n'est pas prise par des politiques, la proposition de décision par la HAS, c'est prise par des scientifiques. La HAS est dirigée par un médecin, avec des médecins, et il n'y a que des médecins, que des scientifiques. Ils ne disent pas on s'est trompé. Ils disent les conditions actuelles permettent d'envisager la réintégration dans des conditions à peu près sûres. Ils disent pas, on s'est trompé, on s'excuse de vous avoir embêté pendant un an et demi. C'est vous qui aviez raison de pas vouloir vous vacciner parce que vous décidez de vous d'analyser si tel médicament ou tel vaccin est bien ou pas bien. Voilà. C'est pas ça qu'ils disent, hein. Ils s'excusent pas du tout.
Oui, moi je trouve que, en fait, la proposition du RN, qui est d'indemniser les soignants, en fait, elle fait ce que le RN sait faire, c'est-à-dire du populisme et pas proposer des solutions. Moi je suis tout à fait d'accord avec le médecin. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une conversation avec les personnes concernées. Donc, en l'occurrence, les soignants suspendus, pour comprendre d'où vient cette défiance. Qu'est-ce qui fait que, malgré que la communauté scientifique soit unilatéralement d'accord sur le fait que la vaccination a eu un effet positif pour la population, pourquoi est-ce que, dans un milieu scientifique, alors que, comme notre auditrice nous le rappelait, c'est des gens qui ont été dévoués corps et âme à leurs patients, donc on ne peut pas accuser d'en avoir rien à faire de l'intérêt général et de l'intérêt des patients, pourquoi est-ce que eux, ils ont... Voilà, non mais exactement. Donc en fait, on a des deux côtés des gens qui veulent le mieux pour leurs patients, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur le sujet. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait une conversation pour comprendre ce qui s'est passé.
Valérie, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas fait vacciner ?
Moi déjà, au départ, c'était parce que je ne comprends pas que sur certaines maladies, on mette des dizaines et des dizaines d'années à trouver un vaccin, et que pour celui-là, on l'ait trouvé aussi vite. Donc déjà, c'est ça qui m'a fait un peu me méfier. Et puis, le fait qu'on nous l'impose avec autant de force et autant de virulence n'a fait qu'augmenter ma méfiance, en fait, en me disant, mais c'est pas... Enfin, voilà, je veux dire, on nous achetait comme des riens, parce qu'on refusait un vaccin ou une autorité du gouvernement. Il me semble que même un patient qui a un cancer, on lui laisse le choix aujourd'hui de faire une chimie ou pas.
Oui, d'accord,
n'importe quelle personne a le choix de se soigner.
Oui, mais sauf que vous êtes soignante et quelque part, là, c'est une défiance vis-à-vis de la science.
Allons au but. Valérie, est-ce que vous accepteriez aujourd'hui, vous admettez que ce vaccin a quand même été efficace, est-ce que là vous accepteriez de vous faire vacciner ou vous êtes toujours braqué sur le fait que vous ne voulez pas?
J'admets pas que le vaccin a été efficace, puisque étant...
Sur les formes graves, si, Valérie.
Ben écoutez, moi j'ai jamais été vaccinée et je n'ai jamais attrapé le Covid. Hein.
D'accord. Donc là, vous refusez de vous faire vacciner.
Bah oui, tu vois bien que.
Oui, moi.
En tant qu'infirmière, vous vous êtes fait vacciner, notamment contre les maladies les plus dures, la variole, etc. Vous avez rencontré quelqu'un qui a la variole dans votre vie ?
Non, par contre, j'ai rencontré des médecins et psychiatres chefs de service qui sont passés à travers la vaccination de l'hépatite B. Hein, et pourtant, ils travaillent toujours. Moi, l'hépatite D, on me l'a pas fait, puis je l'ai pas réclamé. Et puis, j'ai rien dit. Et puis, voilà. Donc, des gens qui...
C'est grave. Excusez-moi, Valérie, mais c'est grave. C'est très grave.
Parce que vous pouvez contaminer quelqu'un sans le savoir.
C'est très grave. Voilà. Ce que vous dites, c'est très grave.
Et vous savez que la santé, c'est un métier de confiance. C'est-à-dire que quand vous rentrez à l'hôpital, vous pensez y rentrer pour pouvoir être soigné, diagnostiqué et soigné. Pas pour revenir avec d'autres maladies que celles pour lesquelles vous arriviez.
Bon, en tout cas, merci en tout cas Valérie de nous avoir appelé. Voilà, Valérie qui fait partie de ces soignants non vaccinés qui devraient être réintégrés par la haute autorité santé. Ah, vous avez des messages, Rémi, sur l'appli RMC.
J'ai ce message, pardon, de Julien qui nous dit: pour la réintégration des personnels soignants non vaccinés contre l'indemnisation, ce ne serait pas juste pour ceux qui ont fait le vaccin à contre-cœur. C'est vrai que...
Et ceux qui ont travaillé.
Bah oui, et puis si le chiffre est exact d'octobre 2021, 15 000, on en est aujourd'hui à quelques centaines. C'est vrai qu'un certain nombre ont finalement décider de se faire vacciner pour ne pas être suspendu. Et puis il y a ce message de Greg aussi: pour moi, il ne faut pas réintégrer les soignants vaccinés, cela va ouvrir une boîte de Pandore. Certains soignants refuseront par la suite certains vaccins,
sauf s'ils acceptent de se faire vacciner. Ceux-là, je pense qu'ils ont un statut.
Tu penses bien que ça fait un an qu'ils ne sont pas vaccinés, c'est qu'ils ne veulent pas. Là, tu as vraiment les réfractaires.
Je crois que c'était une condition d'avoir du recul. À force d'avoir du recul, ils vont peut-être pouvoir.
Oui, là, on commence à avoir
du recul. On est dans une position politique.
Et encore une fois, il n'y a pas que des vaccins à ARN, puisqu'il y a d'autres vaccins sans ARN qui existent.
Mais c'est pour ça que la proposition du médecin qu'on avait de discuter pour comprendre, pour moi, c'est vraiment la seule solution.
Mais là, on vient de discuter avec Valérie et on a compris.
Non, mais oui, mais Valérie, c'est une personne. C'est pour ça que c'était intéressant son truc du cas.
Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que Valérie, tu dis il y a une défiance par rapport à la science, on la réintègre pas. Et monsieur Intel, et lui, il trouve que il a une balance bénéfice-risque qui est négative, donc lui, on le réintègre.
Ce que je pense, c'est que c'est un sujet qui est complexe et que la défiance face aux élites, la défiance face à la science, parfois le complotisme. Non, mais si, mais c'est ça.
Une défiance face aux élites, excuse-moi, c'est un peu complotiste quand même.
Oui, mais donc du coup, mais ce que je dis, c'est que c'est un phénomène qui est complexe. Oui, ça ne veut pas dire parce que quelqu'un a un phénomène de défiance face aux élites qui vaut rien et qu'il doit être jeté. Il n'est pas capable de se mobiliser pour l'intérêt général.
Mais je suis d'accord avec toi.
Donc il faut trouver des solutions.
Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, mais c'est son problème. Moi, mon problème, c'est que non, je fais pas un entretien d'embauche quand je vais à l'hôpital pour savoir est-ce qu'ils pensent du complot, pas du complot, du vaccin,
mais ce sera pas à toi de le faire,
de tel ou tel médicament dont je vais avoir besoin.
Oui, mais c'est à toi qu'on choisit qui on garde.
Voilà, je suis obligé d'avoir confiance en lui quand
mais
j'y vais.
Je comprends, mais du coup, moi, ça m'interroge quand même sur une réponse collective, notamment au phénomène de complotisme. Qu'est-ce qu'on propose collectivement pour sortir de ce genre de problème?
On va terminer avec Philippe qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Et qui est infirmier libéral. Philippe, vous êtes pour la réintégration des soignants non vaccinés ou pas du tout ?
Non, je suis contre. Alors je reprends un peu ce que a dit Jérôme Marty, l'a très bien dit, donc je vais pas reprendre tout ce qu'il a dit. En tout cas, mais moi je suis contre parce que de manière éthique, ça me pose problème. En effet, que des gens n'aient pas confiance en un vaccin. Alors moi-même sur le Covid, j'ai émis des doutes au départ. Je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je me fasse vacciner ou pas. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec l'auditrice précédente, là, avec l'infirmière dont j'ai oublié le prénom.
Valérie.
C'est que là, le contexte était quand même nettement différent de l'hépatite B, de d'autres maladies dont on doit se faire vacciner. Là, c'est un contexte de pandémie qu'on a jamais vécu,
hein, c'est-à-dire
que et que il y avait quand même une urgence vitale pour une population et à protéger une population, en tout cas, qui nécessitait ce type de décision et de prendre peut-être la décision de se faire vacciner sur un vaccin qui n'avait peut-être pas le recul suffisant ou nécessaire, mais en tout cas qui à mon sens, vu qu'il a été délivré au niveau mondial, avait quand même certaines garanties.
Merci beaucoup Philippe. De ce point de vue, débat extrêmement clivant. Rémi, on va voir quelle est la réponse à notre question qu'on a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Réintégration des soignants non vaccinés, faut-il les indemniser?
C'est un oui majoritaire pour 64% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Ah oui, donc c'est un gros oui. Dans un instant, on va parler de ces multimillionnaires qui quittent Paris depuis 2 ans, moins 26% de multimillionnaires à Paris. Des écoles et des commerces qui ferment. La capitale fait-elle encore rêver? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 32 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et on est ensemble jusqu'à 15h, j'allais dire midi, mais non, jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Pierrick Olégas, Loumir Laprès et Jérôme Lavrieux. Avec vous, bien sûr, au 32-16 pour réagir à la désaffection du jour et c'est celle qui touche Paris. Moins 26% de multimillionnaires en 2 ans, des écoles et des commerces qui ferment, des habitants qui fuient, des grèves à répétition, des travaux qui n'en finissent plus, des prix exorbitants, la liste est longue, Rémi. Et pourtant, bah, Paris attire toujours les touristes.
Fluctuat nec mergitur, battu par les flots, mais ne sombre pas. La devise de la capitale semble toujours d'actualité. En 2022, Paris et la région parisienne sont restées la première destination touristique mondiale. C'est pas rien quand même. Plus de 44 millions de visiteurs accueillis, soit une hausse de 95% par rapport à 2021. La clientèle française reste la première. Plus de la moitié du total des visiteurs à Paris sont des Français, suivis par les Américains, les Britanniques, les Espagnols, les Italiens et les Allemands. Mais si les chiffres sont impressionnants, ils ne retrouvent pas les niveaux d'avant Covid. Le nombre de visiteurs est en baisse de 13% par rapport à 2019. Et surtout, au-delà du tourisme, il y a des indicateurs quand même inquiétants. Même si la maire de la capitale, Anne Hidalgo, tente de dédramatiser en expliquant que la baisse de densité démographique est une bonne nouvelle pour Paris, pour une ville davantage à taille humaine, Paris perd des habitants. 120 000 habitants exactement perdus en 10 ans. Et ce n'est peut-être pas fini. Selon un récent sondage de LinkedIn en partenariat avec Le Parisien, 64% des habitants de la région parisienne, dont un grand nombre de Parisiens, envisagent de quitter la région dans un avenir proche ou lointain. Embouteillage, stress, pollution, saleté, immobilier, rien ne va. Voilà ce qui est mis en avant. Seul l'emploi retient les Parisiens à Paris.
Alors Paris fait-il encore rêver, Pierrick Olégas ?
Alors le cordon sanitaire socialiste mis en place par Madame est très efficace. Les riches s'en vont, la population s'en va, il y a que
l'Irak. Mais même les pauvres, vous savez.
Ah, même les pauvres, tout le monde s'en va, donc c'est très bien, c'est écologique, il y aura pas de surpopulation. Voilà, c'est la conséquence de cette ville qui était la plus belle ville du monde en termes d'attractivité touristique et toutes les autres capitales ont leur vertu. Et là, effectivement, moi-même, je ne suis pas parisien d'origine, mais j'aime cette ville. Tous les matins, je me dis, dès que je peux, je m'en vais. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a quand même une culture parisienne qui nous attache. Mais avoir transformé cette ville en cloaque, en repoussoir, avec une politique sociale absolument abominable, dont les pauvres sont les premières victimes, je dis bien. Voilà.
D'ailleurs, il n'y a plus de pauvres à Paris.
Donc,
oui, mais c'est pas la faute d'Anne Hidalgo aussi.
Et ceux qui venaient avec plaisir, et j'en ai connu quand même un certain nombre, soit qui avaient une maison à Paris par tradition familiale et soit
des appartements.
Maison à Paris, par tradition familiale, ça s'appelle l'héritage. Un hôtel particulier. Voilà. Oui, même ces gens-là qui avaient des conditions d'habitat extrêmement luxueuses sont en train de partir. Donc elle est en train d'appauvrir la ville. Elle va en faire une ville des pays du Nord soviétique, vous savez.
Oh, mais n'exagérez pas.
Ils exagèrent un petit peu, vous savez que j'aime bien.
Mais quand tu te balades sur les quais de Seine, il est 20h, le soleil est en train de se coucher, mais c'est magnifique. Et là, tu te dis, Paris est tellement belle. Et puis, cinq minutes après, tu tombes sur des poubelles et tu dis, non.
Voilà, mais elle reste la ville la plus belle du monde. Elle reste la ville lumière, mais souillée et salie par une doctrine. Elle n'est même pas socialiste. C'est assez insulté de socialiste pour lequel j'ai le plus grand respect. Par une doctrinaire dogmatique qui, pour des raisons totalement idéologiques, a transformé sa ville en poubelle. Voilà, donc l'urgence, c'est que Madame Hidalgo s'en aille.
Pourquoi est-ce qu'on a un sentiment d'amour-haine vis-à-vis de Paris, Loumir Laprès ? C'est une ville qu'on adore détester, en fait.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, en effet, c'est une ville repoussoir pour beaucoup de gens à la campagne. Moi, par exemple, quand je discute de Paris chez moi, c'est vraiment cette idée que Paris, jamais de la vie, parce que je pense que la province, alors je déteste ce mot, mais voilà, je l'utilise.
En région.
Là, ouais, mais bon.
Sur les territoires, ouais, comme on dit aujourd'hui.
C'est un peu des espèces de mots pour ne pas dire, c'est-à-dire hors Île-de-France. Les gens ont un rapport, en effet, hyper complexe à Paris, en se disant, en même temps, c'est la ville où on rêve tous d'aller en week-end, avec sa copine, c'est la belle capitale, et en même temps, il y a cette idée que c'est la ville qu'on aime détester. Enfin, c'est la chose qui unit tous les non-parisiens, c'est Paris. Alors, par contre, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Pericot, parce que je ne pense pas que ce soit la faute d'Anne Hidalgo. Ce truc existe depuis bien avant.
Quoi?
La détestation de Paris. C'est pas Anne Hidalgo qui a créé la
jalousie. Elle l'a bien travaillé. Elle l'a bien amélioré.
Après, sur les prix, moi, je peux vous le dire très clairement. Autour de moi, donc moi, j'ai 30 ans. Beaucoup de mes amis qui travaillent ne peuvent travailler qu'à Paris. Et ils partent juste parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter dans cette ville où les prix sont monumentaux. Oui. J'ai lu une étude vraiment édifiante. En 1960, un mètre carré, c'était 1,8 mois de salaire. Et aujourd'hui, un mètre carré, c'est 7 mois de salaire. Mais en fait, on peut juste pas habiter ici. Oui, en moyenne. On peut juste pas habiter ici. Donc, c'est aussi pour ça qu'on part. Il y a plein de gens que je connais autour de moi qui aimeraient avoir des enfants à Paris, mais qui ne peuvent juste pas se le permettre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un rêve qui est juste devenu trop cher pour une grande partie de la jeunesse.
Jérôme Lavrieux, est-ce que pour vous, l'image de Paris est dégradée aujourd'hui, à la fois pour le reste de la France et à la fois à l'étranger?
Je ne crois pas. L'image idéalisée de Paris, c'est celle que le monde entier a, en fait. Bien sûr, les reportages avec les monceaux de sacs poubelles, tout ça, mais c'est circonstanciel. Le Paris fantasmé d'Émiline Paris, c'est ce qui fait une partie des chiffres que nous a donné Rémi sur la fréquentation touristique de l'année dernière. Ça vaut toutes les campagnes de pub. J'adore Paris. C'est une ville magnifique. Il y a une intensité, il y a une richesse architecturale, culturelle, un nombre de musées, c'est fantastique, c'est beau. Partout où vous levez les yeux, à peu près, c'est beau, c'est qu'on aime ou pas, le truc moderne, pas moderne, etc. Je pense que c'est l'ensemble qui fait ça. On a derrière nous, je le dis pour nos auditeurs, une magnifique photo, la cour du Louvre, avec la pyramide, deux choses qui s'entrechoquent.
Tellement décrié au départ. Tellement décrié.
Et une manifestation CGT qui empêche l'accès.
Mon ex-famille politique.
Raconte tout.
Mais qui s'est faite parce que Mitterrand Chirac se sont entendus.
Oui.
En fait, Paris, c'est génial. Ce qui ne va pas, c'est la manière dont c'est géré. Ça remonte à pas, il n'y a pas si longtemps que ça.
On est d'accord.
Quand c'était Chirac, c'était bien géré.
Bien sûr.
Quand c'était Delanoé, c'était bien géré. C'était une ville qui était un phare culturel, attractif, etc.
Ah non, pas du tout.
Le problème d'Anne Hidalgo, c'est pas Anne Hidalgo. Je vais reprendre ma casquette de vieux con qui fait de la politique. C'est qu'elle est tributaire d'une majorité hétéroclite qui tire à U et à Dia. Entre ceux qui disent il faut du mobilier fait avec des planches à la con dans un coin pour faire du potager au pied des arbres, etc. Ceux qui disent il faut travailler 32 heures et pas 35 heures, ça tire dans tous les sens et elle ne dirige rien. Donc il n'y a pas de ligne, il y a des à-coups en permanence. Et je mets de côté la grève. Les éboueurs, c'est normal, ils ont fait grève, ils ne sont pas d'accord. Quand tu fais grève, ça a des nuisances, etc. Visiblement, ça a été ramassé en grande partie.
Oui.
Alors que normalement, le mot d'ordre de confrontation sociale continue. Et la preuve aussi que l'intensité de ces manifestations baisse. Mais dans l'ensemble, on voit que c'est plus entretenu parce qu'il n'y a plus de chef. Voilà. Et dans une mairie, moi j'ai travaillé pour des maires presque toute ma vie, et ben comme disait Chirac, un chef c'est fait pour cheffer, c'est-à-dire pour donner une ligne, qu'on soit d'accord ou pas politiquement avec. Prenez une ville, Vienne en Autriche, c'est magnifique.
C'est une ville musée quand même.
Oui,
mais si vous regardez une chose, je suis désolé, c'est le taux des capitales européennes qui a le plus de logements sociaux de toute l'Europe.
Mais tu vas pas à Vienne pour faire la fête. Enfin, tu vas à Vienne.
Tu veux voir des musées.
Voilà, tu veux voir des
aller
musées.
Aller au château de Sissi.
Donc on peut aussi avoir de la mixité sociale. C'est pas ça le problème de la mixité sociale.
Mais alors, quel est le problème
Parce que c'est sale, c'est plus entretenu, personne ne dirige rien. Et à
surtout,
mon avis,
tu peux plus y aller, en fait. Voilà. Le problème, c'est que Paris, c'est une ville de Parisiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux plus y aller. Parce que si tu y vas en voiture, c'est impossible de se garer. Alors, je sais ce que tu penses de la voiture, mais enfin, il y a des gens, quand tu habites à Saint-Denis.
Mais moi-même, j'ai une voiture. Donc,
voilà. Tu peux plus.
J'en ai une aussi. Si j'habite dans un village de 1000 habitants, bien sûr, j'ai une voiture.
Donc tu peux plus te garer. Les parkings, c'est horriblement cher.
Tu peux prendre le train. Le train, ça coûte très cher.
Oui, alors le train coûte cher quand il arrive. Les parkings. Mais c'est vrai, c'est ingarable. Tu peux plus circuler dans Paris.
Et pour autant, la moitié des touristes sont des touristes français.
Te loger, le budget.
Mais en fait, c'est ça le plus gros problème. Pardon, mais c'est ce qui concerne le plus de gens aujourd'hui, c'est l'accès au foncier. Enfin, en vrai, on ne peut pas acheter cette ville.
Oui, mais c'est
quand t'es touriste, tu viens encore. Regarde, c'est ce que disait Rémi. La moitié des touristes sont des touristes français. Moi, je te dis, je vis dans une zone où Paris reste le rêve pour un week-end avec sa copine, Lumière, avec ses enfants.
C'est vrai, à Londres, à Tokyo, à Madrid, les prix sont terrifiants dans les cœurs de la belle capitale historique.
Non, mais sauf qu'il n'y a pas les mêmes salaires par ailleurs. Et puis, ça ne fait pas rêver de vivre à Londres où tu dois faire des 3 heures de trajet parce que plus t'es pauvre, plus t'es relégué.
Ça a toujours été.
Alors, ça, c'est pas Hidalgo. Au contraire, elle va peut-être faire baisser les prix. J'ai rencontré deux directeurs de théâtre, deux directeurs de théâtre parisiens. Ils baissent en fréquentation parce que les gens, même pas en voiture, Comme en taxi, ils arrivent en retard 30-40 minutes, les gens sortent plus, ils vont plus au théâtre, ils restent chez eux et ils regardent Netflix.
Il est trop fort. On est avec Anthony qui nous appelle de Sionzier, en Haute-Savoie. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Bonjour. Anthony, est-ce que vous, Paris, vous fait encore rêver?
Comme je disais au standard, moi c'est vraiment touristique. Parce que c'est pas du tout une ville qui m'attire entre guillemets pour aller habiter. Le temps d'un week-end, ça me suffit déjà à voir un peu les choses que j'aimerais pas faire au quotidien. C'est super compliqué. Alors nous, on est venu en train depuis la Haute-Savoie, donc on est arrivé à la gare de Lyon. Et après, donc j'avais ma fille de 3 ans et puis ma fille de 9 ans. Donc la fille de 3 ans, même 2 ans et demi, on avait la poussette. Et rien n'est adapté, le métro c'est horrible, on était en galère pendant un week-end, c'était vraiment pour faire découvrir la capitale à la grande pour son anniversaire au mois de janvier. On voulait lui faire visiter la Tour Eiffel, on allait à l'Arc de Triomphe.
Elle était ouverte parce qu'elle est souvent fermée donc.
Non, elle était ouverte cette fois, elle était ouverte, on est monté au deuxième étage, elle était contente, on s'est baladé. On a visité un peu, on allait à l'opéra parce qu'elle fait de la danse classique, on allait à l'opéra, on allait au théâtre Mogador, mais on a fait que du déplacement en métro, poussette sous le bras, la petite, voilà. Et en fait, je me dis que rien qu'avoir les gens qui circulent en voiture, on voit qu'ils galèrent.
Ah, ça, c'est pas une ville faite pour la voiture, c'est sûr.
Et nous, on est en Haute-Savoie, alors on a les mêmes contraintes peut-être d'immobilier parce que c'est super cher aussi, mais par contre, on a l'espace, on a quand même les transports en commun qui sont assez adaptés avec le Grand Genève. Mais je pense que Paris, c'est l'idéal pour visiter. Mais je vous plains, Parisiens, habitez là-bas quand même.
Mais Anthony, là, vous dites, vous êtes parti en famille en week-end, vous citez pas mal de désagréments et c'est vrai qu'avoir une poussette à Paris, c'est juste pas possible. Alors je vous explique pas, quand vous êtes en mobilité réduite, c'est insupportable. Mais est-ce que Anthony, vous avez quand même passé un bon week-end? Est-ce que vous dites, j'y reviendrai en week-end parce que j'ai passé 2 jours formidables.
Ah oui.
En
tant que touriste. Alors après, j'y retournerai pas avec des enfants en bas âge. J'attendrai qu'ils soient un peu plus grands parce qu'effectivement côté poussette c'est invivable.
Comme dans plein d'endroits.
Après comme vous avez dit pour les personnes à mobilité réduite, je pense que c'est pareil.
Ah c'est l'enfer.
Super compliqué. Je sais pas moi quand je vois le métro, je me dis je trouve ça abusé qu'il y ait.
Vous avez la moitié des lignes de métro qui vous sont interdites quand vous êtes en fauteuil roulant puisqu'il y a que des escaliers. Donc.
Je trouve que c'est vraiment abusé parce que. Aujourd'hui, politiquement, tous les bâtiments publics doivent être adaptés aux personnes à mobilité réduite. Là, il n'y a rien du tout, que ce soit les poussettes. La poussette, elle passe même pas en largeur dans les portiques. On est obligé de la plier à chaque fois. C'est un sketch, quoi. Pour moi, je trouve que c'est un sketch.
Merci beaucoup, Anthony, pour votre témoignage. On va terminer peut-être avec des messages, Rémi, et puis le résultat de notre consultation.
Allez, j'ai ce message, par exemple, de Henri qui nous dit « Nous habitions dans le 13e arrondissement de Paris, dans un quartier sympa. J'étais taxi parisien.
Ouais.
Et les embouteillages et la politique d'Anne Hidalgo ont fait que nous sommes partis il y a 10 ans pour le Sud, en l'occurrence pour la Gironde. Nous ne regrettons pas. Le cadre de vie est formidable. Nos poubelles sont ramassées et nous avons encore du carburant. » Que demander de plus?
Alors le résultat de notre consultation est c'est quasi historique dans l'histoire de l'émission, Rémi. Là, je ne pourrais pas vous dire que nous sommes dans la marge d'erreur.
Non, c'est le nom qui l'emporte.
Ah oui,
on
c'est bizarre.
Pour 91% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. 91, c'est les Marnes, c'est ça?
91, c'est l'Essonne.
Ah, c'est l'Essonne.
Exactement. Dans un instant, c'est Anthony Morel qui va nous dire comment gagner de l'argent en courant et grâce à des applis qui vous permettent de gagner quelques euros en échange de quelques foulées. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel pour la dernière fois de la semaine.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony Morel, aujourd'hui, vous allez nous proposer de transformer notre sueur en or. De plus en plus d'applications permettent en effet de gagner quelques euros en faisant du sport. Et ça m'intéresse.
Ouais, c'est une tendance qui s'appelle le move to earn. Donc move, bouger, to earn, gagner de l'argent. Voilà, tout est dans le nom. Et en fait, il y a plein d'applications maintenant dont la promesse est de faire du sport et d'être alors rémunéré. C'est peut-être un grand mot parce qu'on...
Ouais, c'est pas Kylian Mbappé, quoi.
Voilà, non, quand même pas. Mais grappiller quelques petits euros, ça fait toujours plaisir, surtout en ce moment. Alors, Alors, ça a commencé par des applications assez simples. Alors, la grande star dans ce domaine, c'est une appli qui s'appelle WeWard. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà. Il y a 4 millions de Français qui l'ont téléchargée. Et là, le principe est assez simple. C'est qu'on va compter le nombre de pas que vous faites dans la journée. Et à la fin, vous validez vos pas. Et on va vous donner, alors, quelques centimes, hein, en réalité.
Mais genre 10 000 pas, c'est combien?
Sur un mois, vous allez pouvoir, en marchant régulièrement, vous faire 5 euros. Voilà, quelque chose comme ça. Mais en plus de ça, vous allez voir. Oui, bah c'est pas beaucoup, d'accord, mais bon. Non, mais ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez cumuler les applications. C'est ça qui est pas mal. C'est que vous pouvez prendre à la fois WeWard, une autre qui s'appelle Stepler, une autre qui s'appelle Kobe. Et donc, quand vous faites ça, plus ça, plus ça, bah, ça devient quand même assez intéressant. Et puis, vous pouvez, j'allais dire, ajouter un petit peu encore, notamment en répondant à des sondages. Enfin, il y a tout un tas de petites choses que vous pouvez faire pour pouvoir gagner encore un petit peu plus d'argent. Là où ça devient très intéressant, mais c'est plus risqué, je le dis d'emblée, c'est des applications qui vont utiliser les cryptos. C'est, qui vont en fait vous proposer, bah oui, je sais, de gagner des cryptos en marchant. Et alors, notamment la star en la matière, c'est une application qui a connu un énorme succès, qui s'appelle Stepn, que je teste moi depuis quelques mois. Et là, le principe, c'est que vous allez acheter au départ, donc il y a une mise de départ, acheter une basket virtuelle. Donc moi, j'ai acheté ma paire de baskets. Elle est jolie, hein. Ouais. Certaines coûtent plus cher que des baskets réelles. Il y en a qui coûtent des milliers d'euros. Moi, la mienne, bon, je l'ai payée, je sais pas, 60, 70 euros, quelque chose. Donc, c'est pas mal déjà. Et une fois que vous avez ça, vous marchez et vous allez générer des cryptos. Plus vous marchez, plus votre basket va évoluer. C'est un peu comme un personnage dans un jeu vidéo. Mmh. Elle va s'améliorer, elle va vous rapporter un peu plus. Enfin voilà, il y a tout un système de jeu hyper bien fait, hyper malin. Et donc voilà, moi là, pour le coup, je peux marcher 25 minutes par jour avec cette basket-là virtuelle. Donc, et ça me rapporte 1,50€ à chaque fois. Donc, c'est pas
mal. En tout, ça vous a rapporté combien?
Là, je dois être à peu près à l'équilibre, je pense. Je m'étais dit, je vais mettre 100€ dans le jeu. Voilà, ouais. Et je vais voir ce que ça donne. Donc là, aujourd'hui, je suis à l'équilibre. Et maintenant, tout ce que je gagne en marchant, c'est du bonus. Voilà, et ça m'a pris 3-4 mois pour arriver à l'équilibre.
3-4 mois pour 100€?
Ouais, c'est ça, pour arriver à l'équilibre. Ouais, bah, c'est pas mal.
Et 25 minutes par jour, c'est-à-dire que si vous marchiez 50, vous auriez pu gagner 200.
Non, parce que c'est limité. En fait, ce serait trop facile.
Après avoir dépensé 70.
Mais attendez, moi, je cours tous les jours, sinon, là, je serais millionnaire.
Bah oui.
Mais non, ça fonctionne pas comme ça. En fait, ça dépend. Alors, plus vous avez de chaussures, plus vous pouvez marcher 2 minutes et donc générer des crypto-paillettes.
Plus ça te coûte cher.
Ah, bah oui, mais c'est ça. Donc, faut calculer le retour sur investissement. C'est pour ça que je vous disais, voilà, faut faire attention. Mais faut le prendre comme un jeu vidéo. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et c'est assez rigolo. Vraiment, le concept est très ludique. Donc, Stepn, S-T-E-P-N.
Mais on est sûr qu'il n'y a pas une arnaque là-dessous, quand même.
Alors, c'est pour ça que je vous dis vraiment, faites très, très, très attention. Si. Ah ouais, allez pas claquer, votre PEL ou votre plan épargne ou quoi que ce soit là-dedans. Évidemment, il vaut mieux faire très attention. Comme pour toujours avec les cryptos, de toute façon, vous n'avez jamais aucune garantie. Les cryptos peuvent tomber à zéro, donc vous pouvez perdre. Donc, partez du principe que l'argent que vous mettez là-dedans, c'est de l'argent que vous avez perdu. Et puis après, voilà, vous pouvez vous amuser avec, hein.
Dans d'autres pays, il y a des idées assez intéressantes qui sont en train d'émerger dans la même veine. On peut payer notamment des biens et services en faisant des pompes ou des tractions.
Alors ça, j'aime beaucoup. Par exemple, son ticket de bus, c'est une ville en Roumanie qui a instauré ça. Donc en gros, vous faites 20 squats devant l'arrêt de bus et vous avez votre ticket gratuit. En fait, à chaque arrêt de bus, vous avez une borne avec de l'intelligence artificielle qui va, avec une caméra, qui va analyser vos mouvements. Et si vous faites vos 20 squats en 2 minutes, pardon. Oui, en 20 minutes, ça va un peu long. Vous avez le temps de voir passer 2 ou 3 bus. Il y a un ticket de bus qui sort. Voilà. Donc c'est une initiative. Et il y en a plein, en fait, dans cette veine-là. C'est-à-dire, l'idée étant, de pousser les gens à faire du sport, tout simplement.
Ça, c'est pas mal.
Et moi, je trouve ça pas mal. Effectivement, ça, on pourrait s'en inspirer. Donc, très belle initiative de cette ville qui s'appelle Cluj-Napoca. J'espère que je le prends.
Handicapé, non, ce programme, c'est qu'avec son fauteuil roulant.
Non, mais enfin, d'accord, Périco.
Les transports gratuits.
C'est une très bonne réponse. Peut-être qu'il y a les transports gratuits.
Exactement. Et puis, on suit aussi que dans de nombreuses entreprises, il y a plein de challenges, en fait, pour pousser les gens à faire leur
boulot. Absolument. Alors, ça
marche très bien.
Et après, des fois, on est aussi à la limite du flicage. C'est-à-dire, c'est en gros, on vous donne un bracelet connecté, on dit si tu fais tes 10 000 pas par jour, tu payeras moins cher ta mutuelle de santé. Donc, c'est à la fois, c'est intéressant. Ouais, non, mais vraiment, aux États-Unis, ça fonctionne comme ça.
Tu auras moins 50 à la cantine.
États-Unis, en termes de santé, ça n'est pas une bonne idée.
Ah,
c'est
vraiment
ça.
C'est pour ça qu'on est un petit peu à la frontière parfois.
Allez, dans un instant, dans Estelle Midi, merci Anthony Morel, on parlera de la productivité qui baisse en France depuis le Covid, à l'inverse de nos voisins allemands ou encore italiens. Est-ce qu'on est devenu feignant? C'est la question qu'on vous pose. Et ne soyez pas feignant pour prendre votre téléphone ou pour nous écrire sur l'application RMC ou donc nous appeler au 3216. À tout de suite sur RMC. Bon week-end.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.